Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à l'émission peut contenir des infos et j'en profite en même temps que je vous salue, vous autres, mesdames et messieurs. J'en profite pour saluer le collègue François Côté. Comment vas-tu?
Ça va bien, monsieur Simon Forgue, et vous?
Oui, oui, ça va très bien, merci. Vous savez qu'on n'a jamais assez d'informations. C'est non. Un peu comme les annonces de céréales. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp.
Oui.
Chantait l'ourson.
Oui.
Ben, dans l'émission.
Il était pas pire, ces céréales-là.
T'es pas si pire.
Ben, c'était comme, ouais, ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
Il y avait pas les...
On n'avait pas des tonnes de sortes, là.
Ben, les Rice Krispies, du Corn Flakes.
C'est ça, ça, déjà là, ça partait mal.
Il y avait des céréales, les Pebbles, là, aussi, non?
Quand non, ça, c'est venu plus tard.
Plus tard, tu penses?
Ça, c'est venu plus tard, oui, parce qu'on a eu les Honeycombs.
Oui, Honeycombs, oui. Okay.
Puis l'autre, pas pour les Corn Flakes, là, les Frosted Flakes.
Frosted Flakes, oui. Puis il y avait de bonnes pelletées, de raisins secs dans les Raisin Bran Kellogg. Il y avait ça aussi. Bon, alors, un peu de la même façon qu'on n'a jamais assez de Sugar Crisp.
Oui.
Chantait l'ourson. On n'a jamais assez d'informations d'en peut contenir des infos. Et je veux juste
C'est très vrai.
C'est vrai.
Oui.
Je veux juste arriver avec un petit complément d'information sur ce qu'on avait dit à propos de la Journée mondiale de la radio. Je disais, pourquoi ils ont mis ça le 13 février?
Oui, on se demandait pourquoi ça le 13.
Puis je disais, ben, je pense que c'est à cause que c'est la veille de la Saint-Valentin.
Ouais, c'est ça. Ça avait aucun rapport, mais
ça avait aucun rapport. Ben, j'ai su que c'est apparemment cette journée-là, le 13 février, que la radio des Nations Unies a été créée.
Ah, ben voilà.
De quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui?
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de faire un zoom? Et là, t'as le regard, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe à côté de toi, puis t'as comme le regard qui se détourne, tu sais. Puis là, le monde voit que tu regardes pas la caméra, puis là, t'as l'air comme, ben là... Ça t'intéresse pas, là, finalement, notre Zoom, là? C'est tannant un peu parce que tu dis, ben, je vais avoir l'air comme m'intéresser un peu, même si c'est carrément bien plate, là.
Ouais.
Mais tu veux quand même avoir l'air intéressé. Ben, il y a l'entreprise de cartes graphiques NVIDIA que tu connais bien.
Oui, absolument.
Qui a intégré à son logiciel de diffusion en continu broadcast un filtre d'hyper-trucage, un deepfake, finalement, qui fait en sorte que vous semblez regarder en permanence votre caméra d'ordinateur lors de visioconférence. L'idéal pour moi.
Mais comme si tout le monde passait son temps, de toute façon, à regarder pendant 3 heures de temps l'écran sans jamais détourner pour tantôt prendre une note, tantôt, moi, consulter un courrier électronique ou un message qu'on a reçu.
Puis, t'as pas de l'air nécessairement non plus d'un robot, dans le sens où, tu sais...
À ce point-là, c'est bien fait de même.
Ben oui, non, c'est bien fait, là. La nouvelle fonction s'appelle Eye Contact.
Pour vrai, hein?
Oui. Ça utilise l'intelligence artificielle, bien entendu, pour simuler un contact visuel avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice lors de conférences vidéo. La couleur des yeux simulée devrait correspondre à celle de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, d'après ce que nous dit NVIDIA. Non, c'est bien fait, la patente, là.
Là, les deux bras me tombent, là. Tu me vois pas, là, mais t'es en train de les réinstaller, là. Non, mais pas de farce.
Moi, mais Simon, tu sais, avec l'intelligence artificielle,
je comprends, là.
On est comme rendu pas mal là. Mais ce nouvel outil pourrait être très utile pour les créateurs et créatrices de contenu qui cherchent à s'enregistrer tout en lisant leurs notes.
Ah oui, ah ben là.
Et là, t'as l'air de quelqu'un qui, tu regardes toujours la caméra.
Là, je suis tout à fait d'accord que dans une circonstance comme celle-là, c'est génial.
Oui.
Ça m'est déjà arrivé à un moment donné de faire des tutoriels, par exemple, pour mettre sur YouTube, tu sais, des espèces de vidéos où je m'adresse aux gens. Puis j'ai une espèce de prompteur que j'installe sur mon téléphone cellulaire et mais t'as quand même, on dirait toujours que t'as pas les yeux rivés sur.
C'est ça.
L'objectif de la caméra, pardon.
Mm-hmm.
Alors, parce que tes yeux bougent puis t'essayes de lire ce qui est écrit en même temps que je fais semblant que je suis en train de regarder ce qui se passe sur la caméra ou enfin sur l'objectif pour que les gens aient l'impression que je les regarde. Mais avec une affaire comme celle-là,
tu viens de régler ton problème. Là.
Wow!
Parce que là, tu as toujours l'air de regarder la caméra.
Wow.
Un peu comme à la télévision, parce que le téléprompteur, c'est juste en dessous de l'objectif.
Ouais, c'est ça.
Fait que t'as la personne qui lit les nouvelles à la télévision a toujours l'air de regarder la caméra.
Ouais.
C'est parce que le téléprompteur est placé de façon à ce que ça a l'air comme ça.
Ouais.
Dans le fond, ça va faire un peu la même affaire. Tu vas avoir l'air d'un gars qui regarde toujours la télévision.
Wow!
Oui.
À surveiller.
Oui.
Je sais pas si à un moment donné, Zoom ou les autres compagnies Google, ils vont bien arriver avec ça un jour sur leur solution.
Oh, probablement, là. Juste une petite note, là, en parlant de d'intelligence artificielle, Google qui a lancé Bard.
Oui, Bard, oui.
Oui, okay. Qui est la réplique à ChatGPT. Il fallait s'y attendre là, que Google allait se lancer là-dedans. Là.
Vous dire à quel point les technologies, ça avance rapidement. Je me souviens que quand ça a sorti ChatGPT, il y a une couple de mois, Google jurait dur comme fer, point sur la table, qu'on ne fera pas.
On va pas là, nous autres.
On va pas là dans l'intelligence artificielle parce qu'il y a des risques de dérive, des conditions d'éthique et patati et patata, de la législation. Pis,
et il y en a un qui réussit et comme, hop, oh, regardons.
Et là, t'es coup. Nonobstant le fait qu'il puisse y avoir effectivement des problèmes qui pointent à l'horizon, je sais pas.
Ah ben, il va y en avoir des problèmes.
De copies, de trucs du genre. Tu sais, j'ai vu dernièrement que Getty Images qui vend, entre autres choses, des images et de la vidéo là sur Internet, là, ce qu'on appelle du stock, là, des stock images, poursuivait justement une intelligence artificielle comme ça parce que ils se sont aperçus qu'il y a pas mal de leurs images stock qui inspiraient cette intelligence artificielle-là. Donc, il y a effectivement des conditions d'éthique, mais quand tu vois le compétiteur qui est là, puis qui te distance, puis qui te distance, puis t'es en arrière, puis la langue qui traîne à terre.
C'est ça. Ça mais ils arrivent pas trop tard, là, quand
Non,
mais je veux dire, ils sont quand même un petit peu en retard.
Ils sont aussi bien embarqués dans le train, tandis que c'est le temps.
Oui, c'est le temps, là.
Tu nous as amené sur la planète Internet. Avec Nvidia.
Okay. Oui, avec ton lien, là.
Je t'amène dans l'espace, mais pas sur une planète, parce que la Lune n'est pas une planète, mais un autre corps céleste. T'es bien dit, hein?
Ouf, ça pourrait déraper, ça.
À cause du corps ou à cause du céleste?
Céleste, okay. Les deux.
OK. C'est quand la dernière mission lunaire habitée, d'après toi?
C'est dans les années...
1972.
OK, j'allais dire fin des années 60. Là.
Ouais, Apollo 17.
Avec le drapeau qui bougeait pas, là.
C'est ça. Apollo 17, dernière mission habitée. Dis pas qu'il y en a pas d'autres qui sont allés là, inhabités ou on n'a pas tourné autour, là, mais habités, là, qu'on est allé planter de quoi là, c'est 1972. Mais là, si tu on a un problème avec la Lune, c'est l'heure.
Hein?
Le temps. Ouais, je t'explique.
Oui.
D'ici quelques années, et plutôt que tard à part de ça, parce que déjà on commence à travailler là-dessus, il y a de nouvelles missions spatiales, évidemment, qui vont s'en aller sur la Lune, habiter ou pas, pour, entre autres choses, tirer des matériaux, des trucs du genre, l'explorer, la revirer à l'envers, hein, tu sais.
Oui, c'est ça.
Et peut-être éventuellement s'installer là.
Ouais.
Des colonies pour s'en servir comme d'une base de lancement, par exemple, une espèce de pied-à-terre pour aller plus loin vers Mars après ça, puis d'autres planètes.
Ah, je comprends. Okay.
Et là, on a un problème avec le temps. Il est quelle heure sur la Lune?
Ben là, avec les années-lumière,
Il est tout à fait utile la même heure que la mission qui se rend sur la Lune. Si c'est les Américains, ben c'est l'heure des Américains, tu comprends? Parce qu'eux autres, ils patchent leur affaire.
Parce qu'il n'y a pas vraiment d'heure.
Il n'y a pas d'heure sur la Lune. C'est ça l'affaire.
Ah, OK.
Ouais. Et dans le magazine Nature, il y a un article d'une journaliste qui s'appelle Elizabeth Gibney qui se penche sur ce problème assez fascinant qu'il va falloir résoudre plutôt que tard.
Oui, il va falloir donner une heure à quelque part.
Ben, c'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est que si on veut établir des bases lunaires, si on veut faire circuler des robots sur la Lune, puisqu'il y a beaucoup de missions qui vont s'en aller sur la Lune, qui vont être habitées, mais il y en a encore davantage qui vont, tu sais...
Qui vont faire de l'exploration.
L'intelligence artificielle est rendue sur Terre. Donc, à un moment donné, les robots, ils vont aller sur la Lune. Mais l'affaire, c'est que pour que ça fonctionne comme du monde, pour que les robots soient capables de dire, par exemple, « Rejoins-moi à tel point X, à telle heure. »
Ah ben oui, c'est vrai.
Puis t'es un robot chinois, mettons, puis t'es un robot américain.
Non, ça marche pas là.
Fait quelle heure qu'on se rejoint? À mon heure ou ton heure? puis comment qu'on calcule tout ça. Alors, le problème, c'était pas tellement posé jusque-là, parce que justement, comme je le disais, ça se faisait, c'était coordonné sur la Terre. Ouais. Mais, et puis, l'affaire, c'est aussi, c'est que les missions se localisent, comme je le dis, coordonnent leur heure, d'une part avec la base de lancement, mais il y a aussi, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a un petit peu partout sur la planète des espèces d'antennes qui coordonnent le temps universel. Ce qu'on appelle le Universal Coordinated Time, là, le temps universel coordonné. Et ces signaux radio-là font que, dans l'espace, tout match. Si je te dis, par exemple, à telle heure, heure de Greenwich, la porte va rouvrir et tout ça, tout fonctionne.
Ah, OK. Oui.
Mais si on installe une horloge sur la planète Lune, sur le satellite de la Terre, sur la Lune,
oui.
À cause de la gravitation terrestre et de la situation gravitationnelle de la Lune, l'horloge tourne pas de la même vitesse. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que même si on essaye de coordonner deux horloges en disant on va faire pour que l'heure de la Lune matche avec l'heure de la Terre, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas.
Il va falloir que ça soit.
Il va falloir qu'on crée
une autre technologie.
Une autre technologie. Oui. Et c'est ça sur lequel on est en train de travailler actuellement. Et c'est là-dessus que je vais terminer. C'est que actuellement, il y a des spécialistes de l'espace, de la conquête spatiale, qui travaillent à inventer une nouvelle heure pour la Lune. Donc, il va y avoir l'heure terrestre, le temps universel coordonné de la Terre avec des fuseaux horaires, et il va y avoir d'ici très, très peu de temps, probablement dans un horizon très, très rapproché, une nouvelle heure qui va s'appeler l'heure lunaire, très probablement. Et on pense même aller encore plus loin que ça. Tu sais ce qu'ils se préparent à faire? Ils vont même faire des fuseaux horaires, probablement.
OK.
Parce que s'il y a des missions, par exemple, qui disent qu'ils vont s'installer à différents endroits de la Lune, puis on installe des colonies,
ben
forcément, le soleil, il se lèvera pas au même moment à toutes les places.
C'est exact, oui.
Donc, il va falloir avoir des fuseaux horaires sur la Lune. On est rendu loin, là.
Puis tu sais, ça peut paraître banal comme ça. Tu sais, quand tu dis, tu sais, la Lune n'a pas d'heure, moins pis. Après ça, quand tu commences à penser tout ce qui s'en vient, c'est là que ça... Oh oui, attends une minute, là.
Qui aurait pensé un jour, dans les années 70, 80, 90, par exemple, qu'à un moment donné, il y aurait non seulement une heure terrestre, mais qu'on en serait rendu à créer, à toute fin utile, une heure lunaire pour que chaque bébelle qui va circuler sur la Lune puisse se parler en même temps et se rejoindre à tel endroit et tout ça.
Et c'est bon de le faire parce que on s'en va sur Mars.
C'est exactement ce sur quoi j'allais conclure.
Oui.
C'est que effectivement cette formule que l'on va mettre en place pour justement établir une heure lunaire, c'est une formule après ça qu'on va pouvoir transposer à par exemple la planète Mars pour que de la même façon le jour où il y aura des missions sur Mars qui seront installées à telle place puis telle autre place 8-9 heures plus loin en rover on va dire pour que eux autres quand ils vont réussir à OK, je suis dans le fuseau horaire 1, toi t'es dans le fuseau horaire 8. Fait que moi, je m'en vais te rejoindre à l'heure de ton fuseau horaire. Spécial, hein?
Oui.
On est rendu là. Dans un instant, on vous revient après la pause. Restez branchés, c'est l'émission Peut contenir des infos. Et nous parlerons avec Inès Lombardo, journaliste chez Franco Presse.
Cette émission peut contenir des infos.
Il y a un événement pour le moins singulier qui s'est produit il y a quelques jours en matière de langues officielles. Et pour nous en parler, on a pensé inviter avec nous en studio celle qui a signé un texte dans Franco Presse à ce sujet-là, Inès Lombardo. Un texte qui s'intitule « Des changements décisifs à la loi sur les langues officielles ». Et comme je le disais, c'est paru sur Franco Presse.
Oui.
Vous avez peut-être lu ça ou vous allez peut-être lire ça dans francopresse.ca ainsi que dans les journaux francophones au pays.
Un article intéressant là, qui...
Oui, ça parle de la coordination de la loi sur les langues officielles qui ne sera désormais plus entre les mains de, surprise, patrimoine canadien, comme c'était jadis le cas, mais qui va plutôt incomber maintenant au Conseil du Trésor.
C'est ça, le ministère de Mme Fortier.
Oui, on va en parler avec la journaliste en question, Inès Lombardo. Salut.
Salut à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue en studio. Ce qu'on comprend de cette décision-là, finalement, c'est que désormais, comme je le disais, la tâche de coordonner, entre guillemets, l'application de la loi sur les langues officielles dans les différents ministères fédéraux, ça va incomber au Conseil du Trésor, plutôt qu'à Patrimoine canadien, ça vient d'où? Est-ce que c'est un lapin qu'on sort d'un chapeau, cette affaire-là? Et qu'est-ce qu'on espère obtenir comme résultat avec ça?
Alors non, ça ne sort pas d'un chapeau. C'était c'était déjà une demande de la FCFA, donc la Fédération des communautés
francophones et
acadiennes. Merci. Voilà. Et donc eux, ils ont déjà poussé cette idée avec Madame Joly. Quand Madame Joly a sorti le projet de loi sur les langues officielles C32. Donc ça date de 2018. Puis les conservateurs l'ont repris cette année avec le projet de loi C13 de Madame Petitpas-Taylor, qui est l'actuelle ministre des langues officielles. Donc non, ça ne sort pas d'un chapeau. Et qu'est-ce qu'on espère? Bah écoutez, on espère, à l'intérieur des ministères, en fait, on espère avoir une meilleure coordination en centralisant vraiment la mise en œuvre de cette loi-là chez le Conseil du Trésor plutôt que de l'éparpiller, je reprends les mots des conservateurs, de l'éparpiller entre les ministères.
Le plan des libéraux pour la coordination de la loi sur les langues officielles était pas tout à fait ça. C'était relativement différent. Eux, les libéraux, ils souhaitaient visiblement donner davantage de poids à patrimoine canadien que de donner de l'ouvrage au Conseil du Trésor.
Ouais, vraiment. Il y a une grosse chicane entre les deux parties en comité à ce niveau-là. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que patrimoine canadien, contrairement au Conseil du Trésor, a des bureaux régionaux de partout au Canada. Donc pour la mise en œuvre d'une loi, c'est quand même un petit peu plus simple. De leur point de vue, hein, je suis pas là pour donner mon avis, je reprends juste leurs propos. Et Conseil du Trésor, selon un député libéral, n'avait pas assez de ressources. Donc, pour eux, le fait de mettre leurs ressources communément, mais ça aurait facilité la coordination de la loi, en plus d'avoir les bureaux régionaux.
Ouais.
OK. Bref, les libéraux, eux autres, étaient convaincus qu'en laissant ça entre les mains de patrimoine canadien, ça allait mieux fonctionner. On n'aurait pas besoin de sortir le WD-40 pour graisser la roue du chariot, là, excusez l'expression. Mais les conservateurs, eux autres, et d'autres partis, manifestement, parce que ça a passé, là, cette idée-là, eux autres étaient convaincus qu'en mettant ça entre les mains du Conseil du Trésor, ça va mieux fonctionner. Et visiblement, ça trouve preneur, parce que même dans les organismes porte-parole de la francophonie canadienne, entre autres, ça a l'air de faire leur affaire. C'est ça qu'on comprend, là.
Oui, tout à fait. Pour reprendre en fait une expression toute simple d'un député conservateur, il fallait un pilote dans l'avion. Oui, donc ce pilote dans l'avion, c'est le Conseil du Trésor, selon les conservateurs et selon la FCFA.
OK. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours maintenant?
Alors, Simon, je vais pas vous surprendre, ça ne va rien changer du tout. Par contre, ça va changer dans le fonctionnement des ministères de l'appareil fédéral, c'est tout.
OK. OK, donc pour monsieur, madame, tout le monde, ça n'aura pas d'incidence à proprement parler,
mais c'est
dans la vie de tous les jours, non.
C'est ça,
dans les bureaux, dans la direction, par exemple, dans la façon dont sont coordonnées les activités et tout ça, ça pourrait, à un moment donné, percuter un peu l'effet papillon qu'on peut dire, là. C'est-à-dire qu'un petit battement d'ailes dans un bureau à quelque part pourrait avoir, à un moment donné, des répercussions jusque, je sais pas, dans un bureau de poste, par exemple, où les gens ont des services et des trucs du genre. Est-ce que c'est une version raccourcie de penser ça?
Non.
Okay. Non, mais je vais un petit peu trop loin, peut-être.
Non, pas du tout. En fait, pour faire écho un peu à ce que vous venez de dire, Simon, en fait, le fait que ce soit Conseil du Trésor, ça va faire en sorte, donc, de centraliser, puis de, mais ça va, si vous voulez, patrimoine canadien va rester l'instance décisionnelle. Donc, tout ce qui est finance et gestion des programmes, des services en français, etc., c'est eux, c'est patrimoine canadien. Mais la surveillance de la loi, c'est Conseil du Trésor. Donc, pour répondre un peu plus à votre question, non, on n'est pas sur directement vous et moi, ça va pas nous toucher du tout.
Okay.
Mais ça va avoir des incidences, on va dire, éventuellement sur entre les ministères.
OK, parce que j'essaie pas de te cuisiner
juste pour la gestion.
J'essaie pas de te cuisiner Inès, mais j'essayais juste de comprendre, c'était quoi l'idée par exemple de la FCFA de pousser pour ce genre d'affaires là. C'est tout ce que j'essayais de comprendre et ce que je suis en train justement de le comprendre.
Voilà. Fait que ça risque de pas changer
grand-chose.
C'est ça, mais sauf au niveau des gestion interne, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a eu d'autres choses qui un petit peu particulier qui s'est passé au Comité permanent des langues officielles. C'est le Bloc québécois qui a joué les défenseurs des communautés francophones au Canada en s'assurant que soit inscrit la protection de ces communautés-là dans ce changement de cap.
Oui, c'est vrai. Alors, il s'est passé entre-temps davantage de choses. Il y a eu pour la première fois le premier amendement pour les communautés francophones en situation minoritaire, donc le renforcement de leurs droits et du poids démographique surtout. On va essayer de le faire revenir à 1971. Donc, ça, ce sera dans un autre article. mais effectivement, le Bloc québécois, en fait, à la grande surprise de tous, a pris la défense des francophones en disant que il y avait des besoins différents entre les communautés anglophones minoritaires et francophones minoritaires. Et ça va être inscrit dans la loi, dans la future loi.
Wow.
En conclusion, on l'a dit tantôt, là, ça a été poussé entre autres, ou enfin ça a été, énoncé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes au premier chef. Mais sinon, est-ce que depuis ces événements-là, depuis ce changement de cap, si on peut dire, de coordination entre patrimoine canadien et maintenant justement le Conseil du Trésor, est-ce que d'autres réactions qui se sont fait entendre ou
Eh ben pas vraiment. Je vous avoue que vu que c'est un point très technique, pas vraiment de gens ont réagi.
Okay.
J'ai été un petit peu surprise parce que la FCFA qui a porté ce changement-là, en fait, leur réaction était très globale, donc je ne l'ai pas inscrit dans mon papier.
Voilà. Okay.
Je vous le dis.
Wow.
On s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus, qu'ils soient un petit peu plus satisfaits, mais en fait, pas forcément. Et de ce que j'ai compris, ils ne voulaient pas forcément jeter d'huile sur le feu parce qu'il y a quand même une vraie chicane en ce moment au comité.
Ouais.
Voilà. Donc, il voulait pas avoir forcément trop de réactions.
OK.
Ouais, c'est assez houleux, hein, comme discussion en ce moment, là.
Oui.
Au comité.
Oui, tout à fait. Et, il y a une sorte de désaveu aussi de Madame Ginette Petitpas-Taylor.
Ouais.
Parce qu'il y a les communautés anglophones québécoises d'un côté et puis les franco-minoritaires de l'autre.
Ouais.
Et le Justin Trudeau a dit aujourd'hui d'ailleurs que il défendait sa ministre, il défendait le projet de loi, mais qu'il n'y aurait pas vraiment de conséquences pour les députés qui créent cette houle justement.
Ok, il y a d'âpres discussions même au sein du non seulement du comité, mais aussi au sein
du parti,
du caucus libéral.
Ah oui,
ce qui n'est pas peu dire.
Oui.
Ah ben c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Je pensais pas qu'en abordant justement ce simple petit point là, qu'on allait soulever une roche si on veut et tomber dans la réforme de la loi sur les langues officielles, le fameux projet C-13.
Mais j'aurais jamais pensé. Ça aurait été aussi compliqué. Quand ils ont annoncé la réforme de la loi, moi, je pensais que ça va passer trois lectures, puis c'est fait, puis on s'en va, là.
Non, malheureusement, il y a certaines organisations qui disent que qui pensent que le projet de loi ne sera pas adopté avant juin, voire septembre.
Ouf. Oh, wow!
Voilà. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. La ministre disait qu'elle pensait qu'il allait être adopté avant Noël 2022.
Ben oui.
On en est loin et encore plus de 200 amendements, là.
Waouh. On va peut-être s'en reparler à propos de ça.
Combien t'as dit?
Plus de 200.
Ouf! Et 200 amendements.
Ouais, 200 amendements en 4 sessions de comité.
Tu sais d'où vient l'expression que ça va pas passer comme une lettre à la poste?
Ouais, c'est ça. Ouais,
ça vient d'affaires comme ça. Voilà. Des amendements, 200 quelques amendements, ouais, pour un projet de loi. C'est pas bien.
Ça va faire des belles discussions, en tout cas.
On va peut-être s'en reparler, pas vous de ça.
On va se reparler.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
On peut contenir des infos.
Merci beaucoup à Inès qui est venue nous rejoindre en studio pour nous parler de cet intéressant sujet qu'est la révision de la loi sur les langues officielles.
Oui, puis je pensais pas qu'en apportant en ouvrant cette porte-là de la coordination des langues officielles dans les ministères, pas qu'on allait ouvrir un peu la porte un peu plus grande.
Ben non, mais c'est correct, c'est fun qu'on ouvre ça un petit peu plus
intéressant.
Grand.
Puis là, ça nous amène à parler
du français.
Du français de façon
générale.
Du français,
générale. Mais à travers le monde.
Bon.
OK. Avec 321 millions de locuteurs dans le monde, 321 millions.
Ah,
le français est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée après...
Après ben, l'anglais, le chinois...
Non.
Non, hein, t'es un peu... L'anglais est au premier rang.
Non.
Le chinois?
Oui.
OK, chinois.
Le chinois.
OK.
L'espagnol.
L'espagnol.
L'anglais et l'hindi.
Ah, oh, ouais.
Oui, monsieur.
Ah.
Plus de 60% de ceux qui utilisent le français au quotidien se trouvent...
En Afrique.
Ah, ben là...
Ah, je m'en doutais. Écoute,
oui, c'est effectivement 60% en Afrique, 6,6% pour les Amériques et les Caraïbes.
Ah, ben...
C'est pas énorme, hein? 31,3% en Europe.
Ben, c'est pas énorme, mais il faut surtout dire que la francophonie en Amérique, je dis pas qu'elle est seulement au Canada.
Non, non, non.
Mais elle est surtout.
Surtout au Canada, oui, surtout.
Donc, si on va en Louisiane, par exemple, si on va dans certains États américains, dans le Maine, dans des coins comme ça, il y en a de la francophonie.
Mais dans les Caraïbes, il y en a aussi.
Oui, non, t'as raison.
Les Caraïbes, il y en a aussi. Mais tu sais, c'est pas la langue première.
Non, c'est ça.
C'est ça. On s'entend que c'est pas la langue première, mais juste pour te dire qu'il y a quand même 321 millions de personnes au monde qui parlent français.
Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que le français, c'est une langue négligeable, que ça n'a pas de poids démographique et tout ça.
Non, c'est la cinquième langue la plus parlée.
Vous le remettrez sur les rails en bon canadien français, back on track.
Oui, c'est ça.
Tu sauras qu'on est cinquième au monde.
OK,
on est, comment tu disais, 320 quelques millions?
Oui. 321 millions.
Du monde à
on n'est pas dans la ronde de médailles, là, mais quand même, là, on est cinquième, là.
Pas pire. On s'arrête pour une pause, on revient dans un instant. Vous écoutez l'émission j'allais dire tout le monde en parle. Pourquoi? Peut contenir des infos.
On est perdu, mes écouteurs.
tu sais, Guillaume, mets ça la petite poche en arrière.
Ah, c'est ça.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Simon, si je te dis Picasso.
Peinture.
Rembrandt.
Oh oui, des peintres. Il n'y a pas d'erreur, là. On est rendu là, on est rendu dans la peinture.
Quelle est ta couleur préférée de peinture?
J'aime beaucoup le bleu.
Ben, moi aussi. Mais je te dirais que notre couleur préférée devrait être la peinture blanche.
Oui, merci beaucoup de me l'apprendre, mais encore.
Mais pourquoi? C'est parce que la peinture blanche, et il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, et ils ont fait la peinture blanche la plus blanche au monde.
La peinture la plus blanche?
La plus blanche au monde, et je vais te parler après ça d'épaisseur et tout ça, là. C'est que la peinture blanche garde les surfaces fraîches et tellement qu'elle pourrait à l'avenir réduire le besoin de climatisation de nombreuses constructions humaines. Je te parle d'avions, de chars, name it, là. Et ils ont même fait des expériences en peinturant des toits.
Ah, ben c'est
des toits blancs.
Ben c'est clair que ça, c'est une source de chaleur pendant l'été.
C'est ça.
L'été.
Et étant donné que le blanc va repousser le soleil, les rayons du soleil.
Oui.
Les gens avaient presque pas besoin de mettre l'air climatisé.
C'est tout à fait logique.
C'est
très logique. Quand t'as un toit noir, comparativement à un toit blanc, c'est...
Ben c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que là, t'attires le soleil. Il faut que tu climatises. C'est le fun l'hiver. Si tu déneiges ton toit, là, c'est le fun d'hiver, mais ça ne l'est pas l'été.
Wow!
Oui. Alors, ils sont en train de travailler parce que là, le problème, c'est l'épaisseur.
OK.
Oui, c'est l'épaisseur de... Mais là, je te parle de 0,4 mm. Ça, c'était la première version de la peinture, 0,4 mm d'épaisseur. Mais elle n'avait pas les mêmes propriétés que la nouvelle version qui, elle, est 0,15 mm d'épaisseur.
OK, qui est encore plus mince.
On est encore plus mince. Parce qu'il faut comprendre que si on met cette peinture-là sur des avions...
Ah, il ne faut pas que ça soit trop pesant.
Il ne faut pas que ce soit pesant.
C'est ça, parce que...
Le plus mince possible va donc aider les... Mais ils ont même fait des tests sur des avions et il n'y avait même pas besoin de mettre l'air climatisé lorsqu'ils étaient à part, là, à l'aéroport, en attendant le décollage. Il n'y avait pas besoin de mettre l'air climatisé.
C'est quand même assez c'est assez cool. Impressionnant dans la mesure où, généralement, quand on est sur le tarmac puis on attend pour décoller, tu peux tellement avoir chaud des fois dans un avion. Ça devient intolérable.
En 1965... Ford a lancé la fourgonnette de livraison, la Ford Transit.
Qui est encore en opération?
Qui est encore en opération de nos jours.
Ben, pas le même modèle, on s'entend.
Et quelle était la couleur?
blanche.
Elle était blanche exactement pour ça.
Ah!
Oui. Parce que ça, c'est pas d'hier qu'on sait que le blanc va...
Oui, non, ça, c'est sûr et certain, là, mais...
Mais même Ford...
savait d'ores et déjà à cette époque-là qu'en mettant du blanc...
Tu sais, parce que c'était une fourgonnette de travail, c'était une fourgonnette de livraison.
C'est ça.
Fait que s'il y en a qui livraient peut-être du lait ou des choses comme ça, ben en ayant...
Ben, c'est absolument
ça. En ayant du blanc, ben ça réchauffe moins.
C'est tout à fait logique. Quand t'as juste à regarder les camions des laitiers, par exemple, et des boulangers, c'est pas noir, là. Puis c'est pas brun, puis c'est pas rouge, là. Non. C'est blanc. C'est blanc.
C'est ça.
Il y a un peu de lettrage, évidemment, là, mais...
Y a-t-il encore des laitiers?
Je présume. Est-ce qu'ils passent par les... Ben oui, ben ils doivent en livrer un peu.
Ils passent plus dans la maison.
Ils doivent plus passer par les portes. On avait ça à l'époque, nous autres, un laitier passait par les portes.
Laitier boulanger, nous autres.
Ouais, on mettait... Oh oui, absolument. On mettait une pancarte sur le bord de la fenêtre en avant.
C'est ça.
Puis là, ils savaient, dépendamment du côté que tu avais placé la pancarte, ils savaient si tu avais besoin de telle affaire, de telle affaire, puis de tel truc en quantité. Puis après aussi, évidemment que le gars, il savait à qui il avait affaire.
Il connaissait ses clients.
Elle a 3-4 enfants, garderie, ça y prend tant de pain de lait, puis l'autre là-bas, l'autre madame a une grosse famille aussi, elle mange de la crème glacée, je vois,
du lait au chocolat.
Du lait au chocolat,
oui.
C'est ça. Et parlant de lait au chocolat, puis parlant de laitier, qui n'a jamais entendu la fameuse phrase « Il me semble qu'il n'y a pas assez d'heures d'une journée, il me semble que je manque de temps. »
Oui.
On
l'a tous dit à un moment donné.
Ou en tout cas entendu. Oui. Ben aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous fournir 10 excellentes manières de vous libérer du temps. Et de là, mon affaire de lait, de crème glacée et tout ça, à la façon d'une commande d'épicerie. Ouais. Tu vois, 10 excellentes manières de vous libérer du temps à la façon d'une commande d'épicerie.
C'est intriguant, ça, là.
C'est intriguant.
Oui.
Numéro 1, la première chose à faire pour vous libérer du temps, c'est de dresser une liste des choses à faire. C'est exactement comme de faire une liste d'épicerie.
La liste d'épicerie,
Eh oui, c'est la chose la plus élémentaire. Une to-do list. Pourquoi vous faites une liste d'épicerie, d'après vous? Ben, vous faites une liste d'épicerie pour que ça aille plus vite dans le magasin. Pour pas que tu casses la tête.
Oui.
Pour pas que tu commences à dire « J'avais-tu besoin de ça? »
C'est ça.
« Ah, ça, je l'avais-tu? » Mais non, vous faites une liste d'épicerie parce que vous voulez que vous quand vous entrez dans le supermarché, vous savez que quand vous allez ressortir, vous n'aurez pas perdu de temps puis vous allez avoir tout ce qu'il y a, tout ce dont vous aviez besoin. Ouais. Deuxièmement, faites ce qui doit l'être au bon moment. Faites les choses dans votre journée selon l'ordre d'importance et dans l'ordre où vous devriez les accomplir. Je reprends l'idée de la liste d'épicerie quand vous faites votre commande. Si vous mettez toutes les affaires pêle-mêle sur votre liste d'épicerie, c'est évident que vous allez avoir de la misère à vous retrouver dans le supermarché puis vous allez passer votre temps
ces articles.
Au coin des allées à dire « Jean, n'avais-tu besoin de... » Tandis que si vous écrivez, par exemple, sur votre liste d'épicerie, les fruits et légumes en premier, c'est sur le bord du magasin,
le
pain, après ça, la viande, les affaires, ça va aller bien plus vite pour faire. Alors, quand vous faites votre to-do list dans la journée, faites-le dans l'ordre où vous pensez que c'est logique que ça devrait être fait. D'abord, ça va être beaucoup plus facile de vous y retrouver que si vous faites tout pêle-mêle.
Bon, oui.
Fixez-vous des priorités. Numéro 3.
Okay.
Faites comme quand vous faites votre liste d'épicerie, les choses essentielles à faire, puis s'il y a des futilités après, vous irez après ça aux choses moins essentielles. C'est que si vous avez des priorités à faire, vous avez besoin, par exemple, de tel truc pour faire vos recettes, dépêchez-vous, enfin, prenez-les en premier puis gardez le superflu par la suite. Si, après ça, vous devez consacrer du temps pour, je sais pas moi, trouver les saucisses fumées ou encore les popsicles trois couleurs, ça vous fait peut-être moins mal au cœur si vous manquez d'un peu de temps de dire, coudonc, les Moses de popsicle trois couleurs, je les achèterai la prochaine fois.
Puis on a-tu besoin en hiver?
C'est ça. Au moins, j'ai tout ce que ça me prend pour faire ma recette puis faire ce que j'ai de ma semaine. Donc, fixez des priorités. Numéro 4, soyez réaliste. Sachez vos limites. Si vous êtes un bricoleur, que vous soyez fixé comme objectif de réparer, par exemple, l'évier ou le lavabo de la salle de bain, ça peut aller.
Ouais.
Vous allez faire ça assez rapidement. Si vous avez des mains pleines de pouces, ça va prendre du temps. Alors, connaissez vos limites, soyez réaliste dans ce que vous accomplissez. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite pour faire les affaires. Numéro 5, acceptez que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. C'est impossible de tout faire dans la journée.
Non.
Comme quand vous faites l'épicerie, c'est pas possible de faire tous les allées en même temps. Donc, allez-y par étapes.
C'est ça.
Puis, de cette façon-là, une à la fois. Si vous avez déjà dressé, comme je le disais tantôt, une liste de priorités, quand vous allez progresser dans votre journée, vous allez voir qu'il y a des choses que vous, tu sais, t'es pas capable d'être dans le frigidaire des jus surgelés puis de la crème glacée au bout du magasin en même temps que t'es en train de ramasser ton 10 livres de patates.
Non.
Vas-y progressivement.
C'est ça.
Puis sache que...
Une chose à la fois.
Une chose à la fois.
On coche, puis on passe à d'autres choses.
Puis ça peut arriver aussi que quand vous faites vos affaires, vous n'ayez pas le temps aujourd'hui.
Oui.
Ben ça peut-tu se faire demain?
C'est ça. Ben comme tu as dit, si tu dresses ta liste en étant des priorités...
C'est ça.
Ben quand tu arrives vers la fin, c'est moins prioritaire. Donc, oui, effectivement... Comme tu dis, ça peut être repoussé au lendemain.
Il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire demain, puis il y a des choses qu'on pourra faire dans 6 mois s'il faut. Dressez le bilan de votre journée. Donc, si vous voulez savoir à quel moment et dans quelles circonstances vous avez gaspillé du temps, ben faire un bilan de votre journée, faites-le pendant quelques semaines.
J'ai passé 15 minutes, là.
C'est ça.
Ouais.
Exactement. Ben, vous le faites quand vous faites votre liste d'épicerie. Une fois que vous avez avancé dans votre épicerie, vous biffez les trucs que vous avez déjà achetés. C'est comme ça que vous êtes capable de savoir, c'est, tu sais, j'ai tout ça, j'ai tout fait ça. Ben, faites la même chose, dressez un bilan. Là, dresser le bilan, évidemment, ça se fait pas comme la liste d'épicerie, mais la finalité est à peu près la même.
Ben oui.
Numéro 7. Et ça, c'est bon. Fuyez les interruptions et les distractions.
Ah.
Quand on est dans l'épicerie.
Oui.
On en perd-tu du temps.
C'est effrayant.
En avant de, la nouvelle boîte de céréales dans Belle Herbonne. La nouvelle sorte de crème à café que j'ai jamais essayée.
Mm-hmm.
C'est comme ça que vous perdez du temps.
C'est ça.
C'est la même affaire quand vous êtes dans votre journée. Je vous dis aujourd'hui, là, je vous donne 10 excellentes façons de vous libérer du temps. Si vous êtes en train de passer l'aspirateur dans le salon, fermez la télé.
Ouais, c'est ça.
Parce que si vous commencez à vous asseoir en avant de votre soupe de l'après-midi ou encore de votre...
Ils sont rendus là dans l'épisode.
Ouais,
c'est ça.
Ben, vous prolongez vos tâches.
Ouais.
Indûment. Numéro 8, faites-vous aider si vous le pouvez.
Mm-hmm.
Aha!
Oui.
Vous êtes encore là.
On a tous de la misère à demander de l'aide.
C'est ça. Encore là, on est à l'épicerie. Oui. Les enfants sont avec vous. Ils sont pas obligés d'avoir les deux mains sur le panier. Ils peuvent se promener un petit peu. Tu sais, maman a besoin de telle affaire. Va donc me chercher ça.
Oui.
Il revient. Mission accomplie. Vois-tu, on avance dans notre épicerie. Prévoyez l'achalandage, le numéro 9.
Ça, on y pense pas toujours.
Ben, c'est parce que si tu penses, par exemple, que ça va te prendre 15 minutes pour te rendre à tel endroit.
Oui.
Donne-toi peut-être un petit 20 minutes ou 25 minutes pour te rendre. Donne-toi un petit buffer de 5-10 minutes. Comme ça, si t'es pris dans le trafic, c'est une lumière. Oui. Si t'as un petit pépin à quelque part, si t'es obligé de faire un petit détour, ben tu vas arriver. Puis au pis-aller...
T'arrives cinq minutes à l'avance.
Ben ça sera là que tu répondras à tes courriers électroniques que t'as pas eu le temps de répondre.
Et voilà.
Voilà.
C'est ça.
Hein? Alors, prévoyez l'achalandage. Et numéro 10, faites preuve de souplesse.
Ouais.
Hein? Ça, c'est tout à fait... ça peut arriver que... Ça, c'est comme à l'épicerie encore. Et je finis là-dessus. C'est mon dernier point, numéro 10. Ça peut arriver que des fois, vous arriviez à l'épicerie puis vous avez besoin de la crème 15% pour faire une recette.
Ouais.
Puis de la crème, mettons, je sais pas moi, de la K-Bon, nomme le nom, là, je sais pas trop. T'arrives là, puis il y en a pas.
Mm-hmm.
Tu sais que tu vas faire. Ben, tu prends la sorte à côté. Tu sais, t'as 3 affaires que tu peux faire dans une circonstance comme ça.
Vrai.
Tu peux te libérer du temps en disant, ben oui, je vais prendre l'autre marque à côté, elle va faire la job pareil. Tu peux avoir l'option numéro 2, dire, je vais aller dans un autre supermarché, puis je veux avoir cette marque-là. Ben là, ça va relonger un petit peu ta journée.
C'est ça.
Puis le numéro 3, c'est dire, ben, je vais attendre la semaine prochaine, sur ma prochaine épicerie. T'as coup qu'il y en aurait, puis t'as coup que je pourrais faire ma recette avec ça. Ben là, ça te prolonge encore davantage. Tu sais, tu consommes encore plus de temps.
Oui.
Alors, au final, avec mes trucs, en faisant votre journée, en organisant votre temps comme vous organisez votre liste d'épicerie, vous allez voir, du temps, vous allez finir par en trouver quelque part.
OK, on va l'essayer.
Essayez-le. On s'arrête pour une pause et puis dans un dernier élan de cette émission-là, on se retrouve de l'autre côté avec notre dernière portion de « Peut contenir des infos ».
Cette émission peut contenir des infos.
Dernier quart d'heure de notre émission peut contenir des infos. J'espère que vous l'appréciez comme François et moi l'apprécions.
Oui, je t'apprécie, Simon.
Moi aussi, je t'apprécie. Je te donnerais bien une tape dans le dos, mais...
Non, c'est un peu loin.
On m'a tiré deux fois le bras.
Ça va finir dans mon visage.
Ça risque bien, oui, effectivement. Vu la longueur, oui, ça va être facile à atteindre autrement. Connais-tu le mégalodon?
Le quoi?
Le mégalodon.
Ça mange quoi en hiver, ça?
Ben, vous avez peut-être déjà vu le film Mégalodon. Dans ce film-là, oui. Il y a une espèce de navire militaire qui se retrouve face à face avec un requin, mais géant, mon vieux, là, d'affaires extraordinaires.
OK.
Et comme ils sont en mer...
Un grand classique du cinéma, ça?
Bon, un grand classique. Okay. Ils ont fait 2-3 suites.
Ah oui? Bon, OK, c'est un film de peur, là.
Ben, disons que ça finit... Ben, mettons que je te raconte, je ferais pas un spoiler alert, là, mais mettons que, tu sais, quand tu...
Là, tu m'as piqué ma curiosité.
Quand tu rencontres une bébête comme ça, puis que, tu sais, t'es en mer, tu peux pas aller chercher, on va dire, des munitions, des trucs du genre pour l'attaquer. Fait que tu fais avec ce que t'as à bord.
C'est ça.
Si t'as un harpon, tu prends un harpon, pis tu dis, j'espère que ça va marcher.
Ça va finir avec une bouteille de ketchup, là,
ben... Ben, c'est ça, pour revenir à ton affaire de naufragé. Puis là, vous vous demandiez, ça a-t-il déjà existé, ce le mégalodon? La réponse courte, oui. Le mégalodon, c'est le plus grand requin à avoir existé dans toute l'histoire.
Ah ouais,
c'est une grosse créature. Ah ouais. Tellement, là, il était jusqu'à 3 fois plus impressionnant que le redoutable grand requin blanc que tout le monde connaît. Et on estime que sa disparition remonterait à il y a 2,6 à 3 millions d'années à peu près. Eh ben, des chercheurs essayaient de comprendre jusque-là comment une patente comme ça peut disparaître.
Ben, c'est ça.
Pas ben de prédateurs là dans l'océan qui vont accoter un mégalodon. Ben, c'est du côté de l'Italie qu'on vient peut-être de trouver la réponse. Il y a les chercheurs ont analysé entre autres le fossile de mégalodon qui avait été retrouvé. Ils l'ont daté et ils sont aperçus que l'extinction de ce spécimen-là pourrait être intimement liée à la disparition d'autres espèces marines qui vivaient elles aussi à cette époque-là et qui seraient disparues à peu près à la même époque.
Fait qu'il n'y avait plus rien à manger. Ah!
Tu me vois venir, hein?
Donc,
la disparition de ce dernier grand requin à dents géantes aurait donc pu être déclenchée justement par le déclin de d'autres espèces, de petites et de moyennes baleines, entre autres, dont le mégalodon faisait son repas. Elles sont disparues à peu près au même moment où il y a des baleines de plus en plus grosses qui ont commencé à apparaître, des cachalots, des trucs du genre. Et c'était des espèces, deux espèces qui mesuraient à peu près 5 mètres de longueur. C'est déjà assez long, on s'entend, là?
Oui, c'est un gros snack, là.
Oui, le mégalodon, lui, faisait jusqu'à 18 mètres de longueur.
OK, quasiment, ouais.
Et pouvait peser jusqu'à 60 tonnes.
Ouf! Aïe, aïe.
Alors, quand il est survenu à peu près à cette époque-là, une espèce de réchauffement de la planète, ça a causé l'extinction de beaucoup d'espèces d'animaux que le mégalodon prenait comme snack.
Okay.
Donc, cette espèce de petite baleine-là et ce phoque géant qui sont disparus, justement. Et écoute, lui, il mangeait ça, là, ces affaires-là. Puis quand ils sont disparus, il a fallu qu'il s'attaque. À plus gros, parce que tu peux même manger de la crevette, mais il va falloir quand tu pèses 60 tonnes,
c'est ça. Faut t'en manger une méchante bunch.
Faut t'en manger un peu de la crevette, tu sais. Alors, il essayait de s'attaquer à des espèces de baleines ou des affaires qui étaient plus gros que lui. Je l'ai dit tantôt, cachalot, name it. Puis ben, écoute,
ça a pas fonctionné.
Ça a pas fonctionné trop gros. Hein.
Il est mort de faim.
Ben, il est mort de faim.
Hein?
C'est probablement ça qui est arrivé. C'est ça que, en tout cas, c'est une hypothèse. Hey, c'est tellement gros, là. Il y a une petite fille au mois de décembre passé qui a découvert une petite fillette de 9 ans. Elle a trippé sur les crustacés, pas les crustacés, mais les mollusques, les trucs du genre. Puis elle cherche des fossiles et des affaires comme ça. Puis elle était dans le Maryland avec ses parents et elle a trouvé une dent, une vraie dent, là, une dent de mégalodon. La dent faisait 13 centimètres.
Wow!
C'est à moitié d'un pied, ça.
C'est 6 pouces, oui. C'est quasiment 6 pouces.
Ouais. On dit que la dent de mégalodon fait, en général, pouvait faire jusqu'à 15 centimètres. C'est long, hein.
Et ça arrache, ça, hein.
Ouais, c'est ça. Alors, quand ces animaux-là, quand ils sont survenus, comme je l'ai dit tantôt, au Pliocène, il y a à peu près 3 millions d'années, il y a eu un réchauffement qui est survenu. Il y a eu un grand bouleversement dans les espèces. Il y en a certaines qui nourrissaient, justement, le mégalodon qui sont disparus. Les deux calottes glaciaires sont mises à fondre. Puis l'autre s'est retrouvé gros gens comme devant avec un paquet de nouvelles espèces.
C'est ça. Ah non, pire.
T'es pas capable de manger.
Ça me lève le cœur, ça.
Il est disparu. Évidemment, c'est juste une hypothèse.
Ah oui.
Évidemment, on ne sait pas si c'est vraiment ça qui est survenu, mais...
Mais ça pourrait faire du sens.
Tu sais ce qu'ils ont fait pour savoir si ça avait de l'allure? Mm-hmm. C'est qu'ils ont pris des fossiles, justement, de ces espèces d'animaux-là qui sont disparus à la même époque, puis ils ont essayé de trouver des morsures de mégalodons.
OK.
Et ils en ont trouvé. Puis en parcourant le fil du temps, ils se sont aperçus que, oups...
Ils n'avaient plus.
De moins en moins de morsures de mégalodons sur d'autres espèces. Et ils ont fait 1 plus 1 égale 2.
Bon, ah, OK, ça reste de l'allure.
Chance qu'ils soient disparus à cause de ça.
Ça sera notre théorie.
Pauvre diable.
Oh, oui, mais remarque que... Faux petit, il est mort de faim.
Pas tout à fait déçu qu'il soit disparu parce que...
Ah, mais il nous mangeait pas. On était correct.
Ouais, mais... Ça fait peur quand même un peu. Là, tu vois une bébite de 18 mètres de long, 60 tonnes, qui s'en vient avec un aileron qui pointe au large. Tu dis, ouais,
t'es sur ta planche de surf, là.
J'espère pas me retrouver sur son chemin.
Non, effectivement. Moi, là, je vais aller dans une autre direction complètement. Là.
Tu vas délaisser la mer?
Ah, je vais délaisser la mer pour la route.
Pour le plancher des vaches?
Pour le plancher des vaches. Parce que la semaine dernière ou à la dernière émission, on vous a parlé des voitures les plus vendues au Canada.
Oui.
Mais c'était des voitures à essence. Alors là, je vais vous parler des véhicules électriques les plus vendus au Canada en 2022.
C'est intéressant.
Ça a été une année très difficile. Spécialement pour ceux qui veulent faire l'achat d'un véhicule électrique, le temps d'attente dépasse régulièrement les 18 mois. Et faut souvent attendre près de 2 ans. Tu commandes ton véhicule électrique, ça prend 2 ans avant que tu l'ailles. Au Canada, en raison de un peu de ça, les ventes globales ont chuté de près de 20%. Il y a des grands noms qui se sont ajoutés, là, ce qui fait que les modèles de Tesla ont baissé un petit peu. Là. La Ioniq 5, entre autres, la Volkswagen ID4, dont Marc nous parlait dans une de ses chroniques dernièrement, la Kia EV6. Donc, il y a beaucoup plus de véhicules électriques qui sont sur le marché en ce moment. Mais, malgré tout ça, selon le palmarès compilé par Automotive News, la Tesla Model 3 est encore le véhicule le plus vendu au Canada, avec 14 400 unités. Vient après le modèle Y de Tesla, avec 8 000. Et en troisième position, la Ford Mustang Mach-E.
Ah oui!
Oui.
J'en ai vu quelques-unes sur le chemin.
Oui, moi aussi, qui s'est vendu à 6 000, un petit peu plus que 6 000 unités. J'ai jamais compris pourquoi ils ont donné le nom de Mustang, parce que je trouvais que ça avait pas trop rapport avec le véhicule. Mais en tout cas, c'est leur choix. Après ça, vient deux Hyundai, la Kona électrique et la Hyundai Ioniq 5. Les deux Chevrolet Bolt, parce que tu sais, t'as un petit SUV là, là-dedans. Là.
Oui, un petit SUV.
6 et 7 et 8 Volkswagen ID4. 9 Nissan Leaf fait encore partie du palmarès et la Kia EV6 est rentrée en 10e position. Après avoir vu cette liste-là, je me suis posé la question à savoir comment les gens des autres siècles avant nous réagiraient à avoir un véhicule électrique. J'ai pris sur moi. Et j'ai été questionné l'inventeur de l'ampoule électrique et fondateur de la compagnie General Electric, Monsieur Thomas Edison.
Oh!
Grâce, bien sûr, à mon ami Character.ai.
Celui dont tu nous avais parlé, oui, là, l'intelligence artificielle.
Celui avec qui j'avais eu une passionnante conversation avec Super Mario.
Here we go!
Oh non!
OK.
Bon. Oui, là, m'a essayé, oui. J'ai demandé à M. Edison, qu'est-ce que vous pensez de la voiture électrique? Tu vas voir comment cet homme qui...
Ce génie, cet inventeur.
Oui, c'est ça, c'était carrément un génie. Il dit, selon moi, je vais essayer de parler comme il parlait, la voiture électrique est l'avenir de l'industrie automobile. Je pense que les voitures électriques offre un certain nombre d'avantages par rapport aux véhicules à moteur diesel et à essence, notamment une empreinte carbone réduite, Simon, une pollution atmosphérique réduite et des niveaux de bruit inférieurs. La voiture électrique offre également, c'est assez vrai.
J'y crois quasiment.
Offre également des avantages en termes de performance, tels qu'un couple instantané, une accélération rapide. Alors, après ça, je lui ai demandé, je dis, Monsieur Edison, qu'est-ce que vous pensez du Cybertruck de Tesla? T'as vu les images, comment c'est lettre?
Oui.
En tout cas, il dit, je pense que le Cybertruck, tu vois que c'est un peu un politicien aussi, c'est une nouvelle conception passionnante pour un véhicule électrique.
Ah ouais,
tu te mets la passion là-dedans, toi. Le camion a un look futuriste, OK, et aérodynamique, ouais. Oui, on lui donnait ça au moins, qui est différent de tout ce qu'on retrouve actuellement sur les routes. Il dit, je pense que le camion va plaire à ceux qui recherchent un véhicule élégant.
Ah oui, hein?
Ouais, non, ça l'est pas compris.
Élégant.
Ouais, efficace et respectueux de l'environnement. Ça, on va lui donner. Et comme notre chroniqueur Marc Bouchard n'était pas disponible, j'ai décidé de demander l'opinion à une personne pour qui j'ai un respect énorme. Monsieur Fred Flintstone, mieux connu sous le nom de Fred Caillou.
Ah oui, OK.
Oui, qui est le mari de Wilma, d'Elima.
Oui.
Tu sais que c'est un opérateur de grue. Et il possède la plus belle voiture au monde.
Oui.
Alors, je suis demandé à Fred, est-ce que ta voiture avec des roues en pierre est mieux qu'un véhicule électrique? Et voici la réponse à Fred Caillou. Eh bien, il est difficile de comparer mon auto de l'âge de pierre à la voiture électrique. La voiture électrique est une technologie beaucoup plus récente et elle a beaucoup plus de fonctionnalités et d'avantages et, le plus important, c'est moins dur sur les pieds quand on freine.
C'est ça.
Cependant, mon auto de l'âge de pierre est toujours un excellent véhicule et il fait le travail. Et je pense que les deux voitures ont leurs propres avantages et inconvénients. Donc, cela dépend vraiment de ce que la personne recherche dans un véhicule. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui recherchent des roues en pierre, peut-être? Mais il dit, pour moi, je pense que la Stone Age Mobile est la voiture parfaite.
Ah, ben pour lui, c'est sûr.
Pour le respect de l'environnement, pour tout, l'essence...
Ben encore davantage.
Il a raison.
Encore davantage quand on pense qu'à l'époque des Flintstones,
oui,
il y avait pas de borne de recharge électrique.
Non, il y avait pas de souliers non plus.
Merci François pour ce petit tour d'horizon des véhicules électriques et des véhicules qui
oui.
Existerait-il encore aujourd'hui? Je pense pas là, la Stone Age...
Stone Age Mobile.
Stone Age Mobile.
Ouais.
My God.
Il y en a qui l'ont reproduit au fil du temps, là, mais...
Ouais, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Peu contenir des infos. D'ici là, portez-vous bien.
Bonne semaine.